Merci beaucoup, Florence. Voilà, j'espère que vous ne serez pas trop déçus parce qu'en réalité, je me suis rendu compte il y a une heure à peu près que j'avais à peu près oublié la moitié de mes feuilles chez moi. Et donc, ce sera largement un exercice sans filet. Et je ne sais pas encore comment je vais conclure. Alors. Parce que c'est surtout les feuilles sur la fin qui ont posé problème. Bien. À la fin. À la fin du XIIe siècle et au début du XIIIe siècle, les théologiens moralistes, dans l'Occident latin, donc dans nos contrées, si vous voulez, vont prendre en compte un nouveau type de plaisir, un nouveau type de delectatio, comme on l'appelle en latin de l'époque, qui était, je ne dirais pas complètement inconnu auparavant, mais qui va subitement, à ce moment épocal, si vous voulez, devenir quelque chose d'extrêmement important. Jusque-là, la seule delectatio considérée était celle qui était issue, si vous voulez, de la possession d'un objet qu'on avait auparavant désiré. Donc la conception de l'amour qu'on avait dans le haut Moyen-Âge et d'ailleurs dans l'Antiquité était quelque chose d'assez simple, si vous voulez. Donc par vos organes des sens, principalement par la vue, hein, vous êtes attiré par la beauté de tel objet, de tel être, etc. Et vous vous mettez à désirer cet objet. Le désir, ici, si vous voulez, c'est de l'ordre de l'éros, c'est-à-dire c'est une espèce de passion, si vous voulez, mais qui est marquée intrinsèquement, bien entendu, si vous voulez, marquée intrinsèquement par le manque. Hein, comme disait déjà Platon, si vous voulez, dans le banquet, éros hein, est fils de pauvreté. Il est d'expédient, d'ailleurs, parce que celui qui désire cherche toutes sortes, si vous voulez, de stratagèmes hein, pour s'emparer, finalement, de l'objet de son désir. Mais donc, tant que l'objet est absent, il y a, si vous voulez, dans la conception classique, il n'y a pas de délectation proprement dite, il y a simplement ce désir, hein, cette tension, si vous voulez, vers l'objet que l'on rêve de posséder. Et puis le plaisir arrive lorsque l'objet est en définitive, si vous voulez, saisi. Hein, c'est donc les trois stades, si vous voulez, hein, vision, désir et délectation constituent, si vous voulez, une espèce de chaîne ternaire qui commande, pour ainsi dire, la compréhension habituelle, si vous voulez, de l'amour. Eh bien, au XIIe siècle, et au début du XIIIe siècle, va se mettre en place une nouvelle organisation, si vous voulez, du concept d'amour, et un nouveau type de plaisir, une nouvelle delectatio, si vous voulez, va s'introduire progressivement et prendre une importance considérable. C'est ce que les Latins appelaient la delectatio morosa, donc ce qu'on pourrait traduire littéralement, si vous voulez, par délectation morose, mais en réalité c'est une très mauvaise traduction parce que morose habituellement veut dire quelque chose de morne, si vous voulez, de triste, de mélancolique, mais en réalité c'est pas ça du tout dont il est question parce qu'alors ce ne serait même pas une délectation. Hein? Or il s'agit bien d'une délectation, mais morosa veut dire simplement retarder, veut dire délectation retardée ou à laquelle on s'attarde. Ça vient non pas de mos morum, qui veut dire le caractère, hein, qui est l'étymologie, si vous voulez, de notre morose habituelle. Ça vient du latin mora, qui veut dire le retard. Alors, en quoi consiste cette delectatio morosa? Eh bien, ça consiste à imaginer l'objet ou l'être désiré. S'imaginer en train de le posséder, en train de le découvrir. Donc, alors que pour la conception ancienne, ce type, si vous voulez, d'imagination relève purement et simplement du désir qui ne fait qu'accuser, sous une forme peut-être extrêmement prolixe, mais néanmoins effective, si vous voulez, l'absence de l'objet, et donc quelque part la privation de toute délectatio, dans ce nouveau schéma, l'imagination du bien, ou l'imagination de l'être aimé, si vous voulez, devient comme telle une délectatio. Une délectatio dans laquelle on se complaît, à laquelle, si vous voulez, on consacre éventuellement pas mal de temps, si vous voulez. Donc on anticipe de façon imaginative, pour ainsi dire, des plaisirs futurs, et c'est considéré comme étant déjà maintenant, si vous voulez, un plaisir effectif. Donc, on pourrait y voir, si vous voulez, bon, ça serait peut-être un peu un anachronisme, mais on pourrait y voir une espèce de genèse médiévale du fantasme, si vous voulez, au sens courant du terme. Donc, il s'agit, si vous voulez, d'un plaisir sui generis qui mêle, si vous voulez, d'une façon assez inédite pour les personnes de cette époque, surtout quand on les compare à ce qui se vivait et à ce qui se pensait, si vous voulez, dans l'époque précédente, qui mêle d'une façon inédite présence et absence, déjà là, pas encore, etc., etc. Et l'introduction de cette délectatio morosa va révolutionner, pour ainsi dire, le cadre, si vous voulez, jusque-là en vigueur, pour ainsi dire, de la notion de l'amour. Alors, est-ce que la notion de délectatio morosa naît véritablement à cette époque-là? À la limite, c'est une question qui demeure pour nous, si vous voulez, pratiquement sans réponse possible. Ce qu'on constate, par exemple, et qui est extrêmement intéressant, c'est que cette délectatio morosa provoque, si vous voulez, un intérêt considérable, précisément, chez les théologiens. Pourquoi ? Ben parce que, bien entendu, cette délectatio morosa peut assez facilement devenir quelque chose de pécamineux. On se complaît, si vous voulez, dans des fantasmes, dans une sensualité trouble, si vous voulez, qui peut facilement, si vous voulez, vous vous en rendez bien compte, vous le pressentez, qui peut facilement, si vous voulez, devenir une forme d'acquiescement, si vous voulez, un fruit défendu. Hein. Il suffit de songer ici à la fameuse parole de l'évangile de saint Matthieu, dans le sermon sur la montagne, le Christ qui dit la chose suivante, quelqu'un qui convoite une femme dans son cœur, si vous voulez, mais en réalité a déjà commis l'adultère avec elle. Il y a là en germe, si vous voulez, dans ce cœur finalement du Nouveau Testament, la référence finalement à ce type de plaisir imaginaire qui tend bien entendu à, lorsqu'on lui donne libre cours, si vous voulez, devenir possession effective. Bien, alors, ce qui va intéresser notamment les théologiens, c'est la question de savoir dans quelle mesure est-ce que cette délectatio, si vous voulez, cette espèce de plaisir imaginatif, dans le fond, dans quelle mesure est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment au pouvoir de l'homme. Donc, il y a là une thématique que les théologiens moralistes, si vous voulez, ont toujours regardé. Il y a continuellement dans notre nature humaine, surtout la nature humaine qui est blessée, si vous voulez, par le péché originel, il y a comme ça, si vous voulez, des bouffées, pour ainsi dire, de sensualité. C'est-à-dire que vous avez comme ça des pensées, des images qui, spontanément, si vous voulez, émergent, pour ainsi dire, de vos facultés, si vous voulez, et en quelque sorte émergent à la conscience. Alors, tant que, d'une certaine façon, la raison, si vous voulez, et la volonté ne s'y attardent pas, ben, c'est considéré comme quelque chose qui est neutre sur le plan moral. À la limite, c'est quelque chose qui se produit, si vous voulez, de façon purement involontaire, et vous ne pouvez jamais être considéré comme responsable, a fortiori coupable, si vous voulez, d'un mouvement, d'un affect, dans le fond, si vous voulez, qui surgit en vous, mais à la limite, sans aucune intervention de votre volonté. Donc, ceci est quelque chose de naturel, simplement, d'éthiquement neutre, si vous voulez. Par contre, les choses changent, évidemment, lorsque cette pensée, si vous voulez, cette impulsion, cette image, lorsque vous vous y complaisez, hein, lorsque vous ne la chassez pas, si vous voulez, du revers de la conscience, si je puis dire, lorsque vous la laissez occuper, pour ainsi dire, le champ de votre esprit, et le champ de votre sensibilité, et que, le cas échéant, ben, vous l'étoffez, vous la développez, etc., etc. Dans ce cas-là, bien entendu, il peut y avoir quelque chose de proprement pécamineux. Pas nécessairement. On peut prendre des cas, si vous voulez, imaginez que, par exemple, voilà, vous êtes parti en voyage loin de chez vous pendant, par exemple, plusieurs semaines ou plusieurs mois, et au moment où vous êtes sur votre trajet de retour, eh bien, vous imaginez la joie des retrouvailles avec vos proches. Il y a là quelque chose de bien entendu, si vous voulez, de tout à fait normal et même de tout à fait bon, si vous voulez, sur le plan psychologique et sur le plan moral. Donc, la delectatio morosa n'est pas en soi quelque chose de nécessairement négatif, pas du tout, mais évidemment, elle peut l'être. Et alors, cette délectatio morosa peut être de type érotique au sens habituel du terme, si vous voulez. Ça peut relever de l'éros, mais ça peut aussi, bien entendu, relever de la philia, de l'amitié. Ça peut relever, bien entendu, aussi de l'agapé. Ce qui est précisément intéressant, bien entendu, dans cette notion de délectatio morosa, c'est que précisément, c'est un usage de l'imaginaire qui relève de ce que j'appellerais de l'entre-deux. C'est-à-dire que cela mêle absence et présence. Cela mêle éros et agapé. Cela mêle aussi, d'une certaine façon, cela concerne, je vais développer, si vous voulez, ce point suivant, cela concerne aussi l'homme et la femme. Chez les théologiens moralistes, l'importance croissante de la délectatio morosa va permettre de repenser, si vous voulez, dans un cadre conceptuel bien défini, l'interprétation du premier péché, celui d'Adam et Ève. Bon, traditionnellement, si vous voulez, Adam et Ève sont souvent conçus par les théologiens, déjà dans l'Antiquité, mais particulièrement chez les théologiens médiévaux, sont conçus comme étant, pour ainsi dire, des personnifications de facultés humaines. Pour le dire d'une façon très claire, si vous voulez, Ève représente la sensibilité, voire la sensualité, tandis qu'Adam représente la raison. Donc, derrière le double péché, si vous voulez, d'Adam et Ève, fréquemment, les théologiens vont voir en réalité le péché de l'homme en tant que tel, puisque, après tout, Adam veut dire l'homme, de façon générique. Hein, Adam vient de Adama, qui veut dire, finalement, la terre, l'humain. Donc, ça ne désigne pas tellement une personne précise, si vous voulez, ou un couple précis, mais, d'une certaine façon, il y a ce sens-là, mais il y a aussi le sens d'une désignation de l'humain en général. Et alors, comment se passe en réalité le premier péché? Eh bien, il y a la tentation, bien entendu, du serpent, comme vous savez, et le serpent entreprend Ève. Hein? Donc, c'est elle qui est, d'une certaine façon, la première cible, si vous voulez, du tentateur. Et le texte de la Genèse nous dit que, suite aux suggestions, dans le fond, du serpent, Ève se mit à regarder le fruit défendu, hein, et elle dit qu'il était attirant, etc. etc. Donc, elle prend son temps pour finalement contempler, si vous voulez, cet objet, l'envisager, se demander est-ce que ce serait souhaitable de le prendre, d'y mordre, etc. Donc, tout ça se déroule dans une certaine temporalité, manifestement. Et ensuite, lorsqu'elle se décide à manger le fruit, très vite, elle en donne à son mari, et le mari, sans réfléchir, enfin, sans recommencer, si vous voulez, une espèce de délibération ou une espèce de... Le mari mange à son tour. Et c'est à ce moment-là que véritablement le péché est consommé, pour le récit biblique. Donc, comment est-ce qu'on interprète ça, si vous voulez, en termes psychologiques? Eh bien, Ève représente la sensibilité. C'est d'abord la sensibilité qui est séduite, qui est éblouie, si vous voulez, par l'attrait, pour ainsi dire, du fruit défendu. Et Ève sera considérée, et la femme en général, sera considérée par les théologiens comme étant davantage susceptible que l'homme de delectatio morosa. Donc, le fait, si vous voulez, pour la femme de donner libre cours à son imagination et de déployer, hein, de façon fantasmatique, si vous voulez, imaginaire, pour ainsi dire, le bien qu'elle s'apprête à posséder, ce sera là vu quelque chose comme quelque chose d'assez typique de la psychologie féminine. À côté de ça, vous avez Adam qui représente la raison supérieure. Adam, en toute connaissance de cause, mais sans se livrer, si vous voulez, semble-t-il, à ce type d'approche imaginaire, si vous voulez, Adam mange le fruit, à la suggestion, si vous voulez, de sa compagne, et donc pose, si vous voulez, l'acte pécamineux en tant que tel. Voilà. Donc, il y a... Ça me paraît assez intéressant, si vous voulez, de voir comment, finalement, ces théologiens moralistes, qui sont tous pratiquement d'accord, si vous voulez, sur ce thème-là, bon, ça rejoint des lieux communs, si vous voulez, hein, la femme est un être essentiellement sensible, si vous voulez, hein, à l'imagination particulièrement forte, etc., tandis que l'homme représente plutôt la raison. Bon, je passe sur les aspects relativement machistes, si vous voulez, de cette caractérisation, mais elle est extrêmement fréquente dans les récits médiévaux, et dans les interprétations allégoriques des textes bibliques. Mais donc, c'est assez intéressant de voir que cette delectatio morosa est associée de façon privilégiée, si vous voulez, à la psychologie féminine. Alors, le texte que vous avez, je vous ai donné, si vous voulez, un exemplier, mais vous avez par exemple un texte de la Somme théologique ici de Thomas d'Aquin. Hein? Bon, je ne vais pas le lire, si vous voulez, je ne vais pas le lire ici en détail, mais on pourrait montrer à quel point Thomas reste fidèle, si vous voulez, à ces grandes lignes interprétatives qui sont établies bien avant lui. Je lis par exemple le dernier paragraphe sur cette delectatio morosa. La délectation est appelée morose, non pas à cause de sa prolongation, mais du fait que la raison délibérante s'y attarde au lieu de la repousser. On peut éventuellement la prolonger tout de même, hein, mais c'est le fait que la raison délibérante, si vous voulez, se laisse, pour ainsi dire, se laisse circonvenir d'une certaine façon. Comme le dit Augustin, on retient et on rumine avec plaisir ce qu'on aurait dû rejeter aussitôt que l'esprit en a été troublé. Et je lis, si vous voulez, à titre de complément, cette espèce de définition de la delectatio morosa, je lis la seconde partie de la réponse. Hein, qui explique en quoi est-ce que la raison peut être en défaut, finalement, dans le gouvernement des passions. La première manière d'être en défaut, c'est de commander des passions illicites, comme celui qui provoque en soi délibérément un mouvement de colère ou de convoitise. La seconde, c'est de ne pas réprimer un mouvement illicite de passion, comme celui qui, après s'être rendu compte que le mouvement passionné qui surgit est désordonné, s'y arrête néanmoins et ne le chasse pas. En ce sens, on dit que le péché de délectation prolongée réside dans la raison. Mais c'est la raison inférieure, c'est la raison pratique qui est tournée, si vous voulez, vers le monde et vers l'agir. Ce n'est pas la raison supérieure. Hein, cette distinction relevant de saint Augustin étant reprise souvent au Moyen-Âge, la raison supérieure, c'est la raison qui contemple Dieu, si vous voulez, les vérités éternelles ou ce genre de choses. Hein. Donc, cette raison supérieure n'est pas concernée comme telle par la delectatio morosa, à la différence de sa petite sœur, si je puis dire, hein, la raison pratique, la raison inférieure, qui, elle, donne prise, et étant donné précisément sa place dans, l'organigramme, si je puis dire, des facultés, la raison inférieure étant au contact, si vous voulez, immédiat des affects, de la sensibilité, de l'appétit, est susceptible, bien entendu, de se laisser circonvenir par une dynamique imaginative. Dans cette perspective, si vous voulez, les images sont censées avoir une espèce de dynamique propre, si vous voulez. Et d'une certaine façon, si vous laissez cette dynamique se développer, il y a une espèce d'énergétique, si vous voulez, qui se met en place et qui peut envahir, si vous voulez, une bonne partie de la scène de votre psychisme. Bien. Alors, l'importance, on peut se demander, mais dans le fond, pourquoi est-ce qu'à la fin du XIIe siècle et au début du XIIIe siècle, pourquoi est-ce que les théologiens moralistes, subitement, si vous voulez, se mettent à accorder énormément d'importance à cette délectation morosa? Mais c'est manifestement en lien avec un mouvement culturel qui, depuis longtemps, si vous voulez, pour ainsi dire, s'est développé et a conquis pratiquement tous les cœurs, c'est l'amour courtois, c'est l'érotique, si vous voulez, l'érotique des troubadours. Donc, l'amour courtois, c'est un courant qui est extrêmement vaste, hein, et qui comprend différents aspects. Mais pour le dire en quelques mots, puisque vous savez tous à peu près ce que c'est, mais donc, c'est donc une nouvelle culture, si vous voulez, des rapports entre hommes et femmes. Dans l'amour courtois, l'homme se fait inférieur, pour ainsi dire, à une dame qu'il a choisie, enfin qu'il a choisie ou qu'il aime. Parce que l'amour, bien entendu, ne se commente pas toujours. Et alors que, bien entendu, la société féodale est constituée de liens, si vous voulez, de supérieur à inférieur, des liens vassaux suzerains, et où les hommes, bien entendu, ont pratiquement, si vous voulez, tous les pouvoirs, hein, tous les pouvoirs patrimoniaux, tous les pouvoirs économiques, eh bien, en réalité, dans le sud de la France, en même temps qu'une espèce de démocratisation et de déféodalisation qui est marquée assez tôt, donc très vite, si vous voulez, dans le sud de la France, hein, en même temps que se propage l'érotique des troubadours, eh bien, les cités acquièrent une forme d'indépendance de fait. Hein, prenez Toulouse, par exemple, qui est une ville très importante, si vous voulez, du sud de la France. Eh bien, il y a bien des comtes de Toulouse, si vous voulez, mais déjà au XIIe siècle, et a fortiori au XIIIe siècle, les comtes de Toulouse n'ont quasiment plus rien à dire. La ville est gouvernée par des consuls, des capitouls, comme on dit en occitan. Ce sont eux qui concrètement dirigent la ville. Et les capitouls sont élus, hein, par la population. Donc, c'est un mouvement, si vous voulez, où vous avez un renversement des rapports habituels entre hommes et femmes, c'est-à-dire que la femme est conçue comme un suzerain. Et l'homme prend, devant la femme de ses pensées, si vous voulez, l'attitude d'un vassal, qui mendie, pour ainsi dire, de l'attention, qui développe une stratégie de séduction, si vous voulez, dans le but d'acquérir, pour ainsi dire, la merci de cette dame, savoir que cette dame le regarde et lui accorde son amour. C'est un amour qui, par définition, si vous voulez, est extra-conjugal. Hein, vous avez des traités, si vous voulez, d'amour courtois qui sont très explicites sur ce point. Il ne peut pas y avoir d'amour réellement courtois entre un homme et sa femme. Le mariage est perçu comme étant, pour ainsi dire, un lieu où l'amour véritable ne peut pas s'épanouir. Ce qui gouverne l'amour, c'est une logique économique, c'est une logique d'alliance entre familles, c'est une logique patrimoniale, c'est une logique politique, si vous voulez, mais c'est tout sauf une logique de l'amour. Évidemment, on parle ici, si vous voulez, des couches supérieures de la société, où manifestement les mariages sont la plupart du temps, bien entendu, des mariages arrangés. Mais donc, à côté, si vous voulez, des liens du mariage et qui assurent la descendance, si vous voulez, qui assurent la perpétuation du sang, eh bien, il y a place pour, en quelque sorte, une économie de l'amour comme sentiment librement choisi et assumé, et c'est là la problématique de l'amour courtois. Donc, le chevalier, si vous voulez, le soupirant, doit en quelque sorte essayer d'acquérir les faveurs de sa dame, mais il y a un code extrêmement strict. Tout ça doit se faire dans le plus grand secret. C'est-à-dire que si le chevalier, en quelque sorte, trahit, si vous voulez, en quelque sorte, son amour, s'il montre de façon explicite qui est sa dame, d'abord, ça rend l'amour à peu près impossible. Donc cet amour courtois ne peut se développer que dans une semi-clandestinité. Et d'ailleurs, quand un troubadour se met, si vous voulez, à chanter sa dame, très vite, vous avez autour de lui, c'est un petit jeu auquel, manifestement, on se livrait, si vous voulez, dans les cours médiévales, vous avez des gens qui, tout de suite, essayent de savoir, mais qui est-ce, de qui parle-t-il, etc. Est-ce que ce ne serait pas celle-là? Regardez, il se met à pas lire quand il... etc. Donc il y a des traités, si vous voulez, qui sont extrêmement intéressants, où l'on vous explique comment reconnaître l'amour sur le visage de quelqu'un. Le signe le plus clair, c'est que quand une femme, par exemple, est en présence de son amant, elle pâlit. Ça, c'est un signe quasiment, si vous voulez, infaillible. Mais évidemment, il y en a d'autres. Et puis, il y a des femmes qui savent se contrôler, si vous voulez, bien entendu. Voilà, il y a toute une espèce de casuistique. Et alors, ce qui est tout à fait étonnant, si vous voulez, c'est que, bien entendu, tout ça va se traduire de façon littéraire, par des poésies, par des chansons. Le sud de la France vit littéralement de chansons, de poésies, en Languedoc, bien entendu. Et la Languedoc est considérée comme étant la langue de l'amour. Donc même, si vous voulez, même en Italie, bon, certains poètes italiens, si vous voulez, vont chanter leur amour dans la langue du si, dans la langue italienne, mais certains le chantent en langue doc. Dans le Nord, on va aussi, bien qu'on ne parle pas cette langue, si vous voulez, on va écrire des poèmes en langue doc. Richard Cœur de Lion, à la cour d'Angleterre, écrit des poésies d'amour en langue doc. Donc c'est quelque chose...
Sa mère était quand même duchesse.
Oui, bien sûr, il connaissait le... Oui, oui, bien sûr. Et alors, ce qui est tout à fait, si vous voulez, ce qui est tout à fait étonnant, c'est que c'est un amour courtois dans les deux sens du terme. C'est-à-dire que les hommes font la cour aux dames. Notez qu'on a conservé aussi quand même quelques poésies où il y a eu des femmes troubadours. Qui chantent leur bien-aimé, et on a quelques témoignages aussi, si vous voulez, de femmes troubadours qui chantent l'amour pour une autre femme, donc il y a quelques textes qui vont, assez rares, mais qui vont dans ce sens-là. Donc, il y a développé, si vous voulez, des stratégies de séduction, mais il y a aussi des cours de justice, dont les juges qui tranchent, si vous voulez, les différends sont les femmes. Donc concrètement, on rapporte par exemple, voilà, tel chevalier a eu tel comportement vis-à-vis de cette dame, il s'est mis à s'éprendre vis-à-vis d'elle, etc. Et la dame s'est comportée de telle ou de telle façon. Est-ce là se comporter honnêtement aux yeux de l'ami? Est-ce là mettre en pratique la noblesse qui est requise, si vous voulez, par l'amour pour toi? Et ce sont des dames qui répondent. Il y a Aliénor d'Aquitaine, par exemple, qui est une reine, si vous voulez, très, très importante. Partout où elle va, d'ailleurs, elle crée des espèces de cours d'amour. Il y a sa fille, une de ses filles, notamment Marie de Champagne, qui était considérée comme étant une des femmes au jugement le plus sûr pour toutes les questions d'amour. Vous aviez Ermengarde de Narbonne, etc. La comtesse de Die, etc. Ce sont chaque fois des femmes, si vous voulez, qui jugent littéralement et qui se prononcent sur certains cas. Et ça fait jurisprudence. Et ça se transmet, si vous voulez, dans toutes les cours. Aliénor a jugé tel cas de cette façon. Et chacun, ce sont des dames qui ont autorité, véritablement, sans ces questions-là. C'est tout à fait curieux. Bon. Et alors, bon, ce à quoi nous assistons, bien entendu, si vous voulez, dans la problématique de l'amour courtois, c'est une inversion, dans le fond, des rapports hommes-femmes, y compris en ce qui concerne la delectatio morosa. C'est-à-dire que les hommes se mettent aussi, si vous voulez, dans leur façon d'envisager leur belle, si vous voulez. Hein. Bien entendu, comme au début, il est de bon ton, si vous voulez, pour la dame de résister, bien entendu, à ses avances. Hein. Et alors, contrairement à ce qu'on a dit parfois, cet amour n'était pas nécessairement condamné à être platonique. Non, ça pouvait déboucher, si vous voulez, sur un accomplissement charnel, mais évidemment pas tout de suite. Il fallait vraiment du temps et il fallait passer par certaines étapes, dont une des dernières étapes qui était considérée comme le plus importante, c'était que le chevalier recevait le cadeau extraordinaire de voir sa bien-aimée nue, si vous voulez, hein, et éventuellement de pouvoir la toucher, de pouvoir se placer juste à côté d'elle, mais sans consommer, évidemment, la relation. Mais on a, ceci dit, c'est le fameux assage ou assac, dont parle beaucoup de poésie amoureuse du Moyen-Âge. Mais il arrivait que la dame, au bout d'un certain temps, conquise, parce que un amour noble, si vous voulez, qui émane d'un homme vertueux, était censé, selon les conceptions de l'époque, finir par susciter de façon presque irrésistible la réciproque. Bien. Mais donc les hommes se mettent eux aussi, si vous voulez, à la delectatio morosa, et bien entendu imaginent, si vous voulez, leur belle, etc. Si vous voulez, hein, puisque forcément, il fallait du temps, il fallait prendre patience, mais précisément la delectatio morosa était déjà en soi, si vous voulez, un plaisir amoureux, enfin, souvent le seul concrètement qui était à la disposition des soupirants, mais auquel ceux-ci accordaient évidemment un prix considérable. Alors, parmi les théoriciens, par exemple, de l'amour courtois, il y a un livre qui est extrêmement connu, écrit par un certain André Le Chapelain. Vous voyez que les Chapelains se mêlent de beaucoup de choses, si vous voulez, à cette époque-là. Et lui-même parle manifestement d'expérience, si vous voulez. Hein, c'est un livre absolument fascinant. Hein, c'est presque... Donc, ça donne la définition. Qu'est-ce que c'est l'amour? Quels sont les effets de l'amour? Qui est en droit d'aimer? Etc. Et puis, après ça, vous avez pratiquement des exercices... Je ne dirais pas des exercices pratiques, mais c'est comme des how-to books. Comment séduire une femme, par exemple, de très haut lignage? Comment saisir une femme de noblesse moyenne? Comment séduire une roturière? Bien entendu, en fait, si vous voulez, ce livre était... Donc, le titre est très mauvais, Traité de l'amour courtois. Alors, c'est un titre français fantaisiste. En réalité, le titre, c'est « De amore » en latin, tout simplement. Mais c'est un livre qui est écrit à usage des hommes. Hein, comment séduire les femmes? Et alors, vous avez toutes sortes de... Il y a de véritables disputationes. Hein, vous avez, par exemple, des arguments qui sont proposés à l'homme, d'une grande noblesse, etc., madame, etc. Enfin, voilà. Cherche à embobiner, si vous voulez, manifestement, si vous voulez... La femme sur laquelle il a des vues, mais la femme répond, donne des arguments, hein, dit pourquoi elle ne souhaite pas se livrer pour le moment à l'amour, etc. Et tout ça est extrêmement subtil, et c'est l'équivalent des espèces de disputationes, si vous voulez, scolastiques, comme on en rencontre dans les universités, même si c'est une université particulière, puisque c'est l'université de l'amour. André Le Chapelain. André Le Chapelain. Bon, je lis ici quelques textes, si vous voulez, que vous avez ici, que j'ai tirés, si vous voulez, qui sont... Le texte numéro 2, c'est le tout début. L'amour est une passion naturelle qui naît de la vue de la beauté de l'autre sexe et de la pensée obsédante de cette beauté. On en vient à souhaiter par-dessus tout de posséder les étreintes de l'autre et à désirer que dans ces étreintes soient respectés par une commune volonté tous les commandements de l'amour. Donc c'est l'amour courtois, bien entendu, et il y a tout un code, si vous voulez, de conduite, hein, par lequel on montre qu'on est un gentilhomme. Le terme gentilhomme vient de là. Hein. C'est quelqu'un qui sait se conduire en amour, sait se conduire avec les femmes, et par extension, si vous voulez, bien entendu, avec les autres membres, les autres éléments du genre humain. Quand un homme voit qu'une femme est aimable et qu'elle convient à son goût, aussitôt il commence à la désirer dans son cœur. Ensuite, plus il pense à elle, plus il brûle d'amour pour elle, et enfin sa pensée est tout envahie par cet amour. Bientôt, il commence à se représenter, on voit ici la delectatio morosa, si vous voulez arriver tout à fait explicitement, il commence à se représenter la façon dont elle est faite, à détailler ses membres, à imaginer ses occupations. Il cherche à pénétrer les secrets de son corps et il souhaite en posséder sans réserve chaque partie. Et donc, cet amour est cultivé pour un des arguments, si vous voulez, qu'on donnait aux dames qui étaient un peu parfois récalcitrantes à se lancer dans l'aventure, c'est qu'en réalité, l'amour ennoblit l'être humain. Alors qu'on est, dans son état ordinaire, quelqu'un peut-être d'assez médiocre, le fait d'aimer vous élève, pour ainsi dire, au-dessus de vous-même. Vous acquérez des vertus, une générosité tout à fait étonnante, qui vous étonne vous-même. Donc l'amour comme facteur, si vous voulez, réellement moral, d'amélioration des êtres humains, l'amour comme anoblissement. Il y a quelque chose de divin, si vous voulez, il y a quelque chose de la grâce divine dans l'amour qui vous tombe dessus. L'amour fait que le véritable amant ne peut être avili par l'avarice. Il amène un homme grossier et sans éducation à briller par son élégance. Même à un homme de la plus basse naissance, il peut donner la noblesse de caractère. Il remplit l'orgueilleux d'humilité. Et grâce à lui, l'amant prend l'habitude de rendre complaisamment à chacun de multiples services. Oh, quelle chose extraordinaire que l'amour, lui qui fait briller l'homme de tant de vertus et dispense à tout être, quel qu'il soit, tant de qualités. Bien. Alors, ce que je voudrais faire, si vous voulez, dans la dernière étape ici de mon exposé, c'est montrer à quel point Dante, dans sa première grande œuvre, qui est la Vita Nova, la vie nouvelle, Dante, dans le fond, fait l'expérience de l'amour, de l'amour de Béatrice. Et alors, au début, Dante est vraiment tout à fait, si vous voulez, dans les codes de l'amour courtois. Mais ce qu'on va voir petit à petit, c'est qu'il y a un travail, notamment un travail de l'imaginaire chez Dante, qui petit à petit le fait évoluer. Il semble pressentir qu'il y a une espèce d'impasse, si vous voulez, dans l'amour courtois. Pour dire un petit peu les choses, si vous voulez, surtout sous les formes extrêmes qui vont se rencontrer, notamment en Florence, à travers un groupe qui s'appelle les Fidèles d'amour, dont je vais dire quelques mots, et qui avait à sa tête un poète célèbre de la cité, Guido Cavalcanti. Donc Dante va être initié, si vous voulez, à cette culture globale de l'amour courtois. Mais petit à petit, pour le dire en deux mots, il va pressentir que cette vision imaginaire, si vous voulez, de l'amour, a dans le fond quelque chose de stérile, quelque chose d'un peu névrotique, finalement. Et il va tâcher de s'ouvrir à autre chose. En fait, ce que Dante va progressivement se rendre compte, c'est qu'en réalité, se consumer d'amour pour sa dame, et en elle, dans le fond, aimer plus l'amour qu'une personne réelle, en réalité, peut finir par avoir quelque chose d'assez destructeur. Le véritable amour, Dante va en être progressivement convaincu, le véritable amour est actif. Il se soucie effectivement du bien d'autrui. Pas seulement de l'être aimé, mais par une sorte de rejaillissement, si vous voulez, d'autres personnes également. C'est ainsi que Dante, commençant, si vous voulez, par l'amour de Béatrice, va progressivement, alors que Béatrice elle-même, si vous voulez, gagne sa stature définitive de figure de l'éternité, eh bien, Dante va s'ouvrir à des amours plus vastes. Il va s'ouvrir à la philosophie, dans le banquet. Il va chercher tout d'abord dans la philosophie une espèce de consolation à la perte de Béatrice, mais ce sera plus qu'une consolation, ce sera la découverte d'une dimension plus vaste de l'amour. Et Dante va vouloir manifester son amour à ses contemporains, non plus seulement, si vous voulez, en chantant des poèmes d'amour et en aidant déjà les autres, finalement, à vivre selon cette logique de l'amour courtois, mais il va leur dispenser la sagesse philosophique. Il va écrire des livres de philosophie en langue vulgaire. pour que la sagesse, si vous voulez, de la philosophie qui mène au bonheur, ultimement, selon Aristote, eh bien, soit accessible, si vous voulez, à toujours plus de gens. Pas seulement aux clercs, pas seulement aux spécialistes de l'université, mais aux citoyens habituels des cités italiennes, comme Florence. Hein, c'est le fameux banquet, où Dante conçoit, si vous voulez, tout un programme de philosophie, mais destiné aux laïcs. Dans l'amour chez Dante va prendre progressivement une dimension, même une dimension politique. Dans son investissement, si vous voulez, pour sa cité, il faut y voir, dans le fond, une espèce de conséquence logique de l'amour. Hein, dont Béatrice avait donné l'impulsion, mais qui doit en réalité se propager plus largement, comme par cercle concentrique, et prendre une dimension politique. Et finalement, dans la Divine Comédie, c'est un voyage imaginaire, si vous voulez, dans l'au-delà, comme vous savez, mais en réalité, ce que Dante veut faire, c'est proposer à ses contemporains, à ses lecteurs, et au-delà de ses contemporains, parce qu'il sait que son œuvre connaîtra un retentissement à travers les siècles, il est très conscient de sa valeur. Hein. D'ailleurs, dans la Divine Comédie, il se met lui-même en scène à côté de Virgile, à côté d'Homère, donc il ne se prenait pas pour de la crotte, quoi, hein, pour dire les choses. Non, mais il savait, il était convaincu, si vous voulez, de son génie, il savait, d'ailleurs de son vivant, à la fin de sa vie, il était d'ailleurs reconnu comme étant déjà, si vous voulez, un très très grand poète. Mais ce qu'il entend donner à travers ça, si vous voulez, c'est une véritable somme de philosophie morale. Donc, apprendre aux gens où se trouve le bonheur. Comment aimer, en définitive, et comment aimer d'une façon à la fois conforme à la raison et d'une façon féconde pour soi et les autres. Et le fait, si vous voulez, que cet amour est finalement destiné à porter du fruit, à s'incarner dans le monde et pas à rester, si vous voulez, dans une espèce de narcissisme imaginaire, c'est cette fameuse phrase qui termine la Divine Comédie et où Dante parle de l'amour qui meut les astres et les autres étoiles. C'est une phrase, si vous voulez, les plus connues, mais voilà, là. Hein, l'amour est en réalité une force cosmique immense, mais à laquelle il faut être initié. Hein, sinon, on risque d'être broyé par elle plutôt que de l'utiliser, entre guillemets, pour parvenir au bonheur et conduire les autres, en quelque sorte, au bonheur dont l'homme est capable sur Terre et dans l'au-delà. Bien, je voudrais simplement lire ici, si vous voulez, quelques textes avec vous. Je n'ai pas le temps, évidemment, de parcourir, si vous voulez, toute la Vita Nova, mais il y a donc une dynamique, si vous voulez, une dynamique de l'amour. Il y a un travail de l'imaginaire, si vous voulez, par lequel, petit à petit, Dante ajuste, pour ainsi dire, sa conception de l'amour dans ce sens que je viens de vous dire, dans ce sens d'un amour non névrotique, si vous voulez, d'un amour qui s'attache véritablement à l'autre, qui veut le bien de l'autre et des autres en général. Donc, il y a notamment le fameux texte, si vous voulez, de la première rencontre avec Béatrice, alors que Dante et Béatrice ce sont encore de tout jeunes enfants, Dante a 9 ans, si vous voulez, et Béatrice, donc Dante a 9 ans accompli, et Béatrice vient d'entrer dans sa 9e année. Et voici la façon dont, des années après, bien entendu, hein, Dante relie, si vous voulez, cette première rencontre qui va marquer, bien entendu, le développement d'une vie nouvelle. Hein, la vie nouvelle, c'est la vie éclairée par l'amour. La vraie vie commence, si vous voulez. Hein. 9 fois déjà, Béatrice est associée perpétuellement au chiffre 9. 9 nova, si vous voulez, vous avez un jeu de mots continuel. Le 9 représente une espèce de. Bon, la véritable répétition, c'est le 10. Mais la répétition n'est jamais la répétition pure et simple de ce qui a été. Il y a toujours une forme d'accomplissement, une forme de nouveauté. Et ça, c'est indiqué par le 9. serait intéressant pour ceux qui s'intéressent au thème, différence et répétition, si vous voulez. Il y aurait des choses à dire. Neuf fois déjà après ma naissance, le ciel de la lumière était revenu presque en un même point quant à sa giration propre, lorsqu'à mes yeux apparut pour la première fois la glorieuse dame de ma pensée. Donc ça, c'est typique, bien entendu, si vous voulez, du discours de l'amour courtois. La dame de ma pensée, celle qui va comme aimanter, si vous voulez, toute mon activité imaginaire et toute mon activité intellectuelle. Que beaucoup appelèrent Béatrice, ceux qui ne savent pas ce que signifie que donner un nom. Parce que Béatrice sera vraiment celle qui rend heureuse, hein, celle qui conduit à la béatitude. Elle avait déjà été en cette vie assez pour qu'en son temps, le ciel des étoiles se soit déplacé vers l'Orient d'un 12e de degré. Si bien qu'elle m'a paru presque au début de sa 9e année, et moi je la vis presque à la fin de ma 9e année. Elle apparut vêtue de très nobles couleurs rouge sang, modeste et chaste, sainte et parée de la façon qui convenait à son très jeune âge. Je n'ai pas le temps de rentrer dans tous les détails, mais quand Dante parle de sa temporalité à lui, c'est la temporalité du soleil. Le soleil, c'est la planète qui est associée aux sensations, à l'imagination chez Macrobe. Hein? Par contre, la temporalité de Béatrice est décrite en termes des étoiles fixes. C'est-à-dire que c'est un temps beaucoup plus lent. Les étoiles sont plus lointaines que le soleil. Donc le soleil se meut pour nous rapidement, les étoiles se meuvent extrêmement lentement, puisque leur cycle, c'est plus ou moins 20 000 ans, la fameuse grande année, si vous voulez. C'est à ça que Dante fait allusion ici. Mais qu'est-ce qu'il veut dire ici, principalement? Il veut dire que lui c'est lui qui est amoureux. Hein? Alors, à ce moment-là, si vous voulez, Béatrice ne l'est pas encore. Et c'est lui qui se meut, pour ainsi dire, beaucoup plus vite, qui est agité par la passion de l'amour. Et il exprime ça en référant son propre temps à lui, à une temporalité astrale, si vous voulez, céleste, différente. Dans le fond. Ouais. Et alors, bon, très vite, si vous voulez, hein, ce qui se passe alors, c'est que Dante devient, en quelque sorte, le vassal de l'amour, le serviteur de l'amour. Je dis, lorsqu'il voit Béatrice, hein, il est pris littéralement de tremblement. C'est le texte numéro 6. Je dis en vérité qu'à ce moment, l'esprit vital qui réside dans la plus secrète chambre du cœur commença à trembler si fort que cela se voyait d'une façon effrayante dans mes moindres veines. Et tout tremblant, l'esprit vital, c'est-à-dire une espèce, dans un terme de médecine, si vous voulez, de l'époque, le spiritus, c'est ce qui liait le corps à l'âme. Et quand un nouvel organisme se formait, le spiritus forme d'abord le cœur, si vous voulez. C'est le premier organe qui est formé, puis les autres organes sont formés par le spiritus après. Mais donc, Dante est atteint par son esprit vital, si vous voyez, qui est présent dans son cœur, bat littéralement la chamade. C'est une forme de renaissance. La vision de Béatrice le reconfigure littéralement, si vous voulez, hein, et va à partir de ce moment-là accompagner son souffle, les différentes formes du spiritus qui lie le corps à l'âme. Donc on pourrait développer ça, si vous voulez, en faisant référence à la médecine hippocratique, etc., mais nous n'avons pas le temps. L'esprit vital, en tout cas, dit ces mots, « Voici un Dieu plus fort que moi, qui par ma venue dominera sur moi. » Donc, symboliquement, si vous voulez, Dante devient, pour ainsi dire, le serviteur de l'amour. Il va devoir faire tout ce qu'amour lui commande. Et amour lui commande, évidemment, d'essayer de guetter, si vous voulez, les allées et venues de Béatrice pour essayer de la voir. Hein? Donc, j'ai passé, si vous voulez, certains passages, mais c'est le texte numéro 7. « Depuis lors, je dis qu'amour domina mon âme, qui fut aussitôt mariée à lui, et qu'il commença à prendre sur moi une assurance et une maîtrise telle par la force que lui donnait mon imagination. » Qu'il me fallait faire toutes ses volontés sans exception, etc., etc. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez, en réalité, cette relation amoureuse, c'est une relation à trois termes. Vous avez Dante, vous avez Béatrice, et il y a amour qui est comme personnifié. Et amour est un maître tyrannique. Bon, d'une certaine façon, on pourrait dire ça, si vous voulez, que Dante n'est pas Dante est peut-être amoureux de Béatrice, mais il est surtout amoureux de l'amour, ce qui arrive très souvent. Hein, tout le monde le sait bien, si vous voulez, dans nos premières expériences amoureuses, c'est toujours assez difficile, finalement, de ramener l'amour à la personne même. Hein, il y a là comme une dynamique d'expansion qui a en réalité pour correspondant intentionnel souvent l'amour plutôt que l'être aimé. Et alors, ce qui est assez typique, c'est que donc amour va se manifester à lui sous la forme de vision imaginative extrêmement forte. Je prends par exemple, si vous voulez, le texte numéro 8 ici. C'est 9 ans plus tard, donc Dante et Béatrice ont quasiment 18 ans. C'est l'âge pour André le Chapelain, pour les hommes en tout cas, parce que les femmes sont plus matures, mais à 18 ans, un homme commence à être crédible en tant qu'amant. C'est-à-dire qu'il est capable d'amour fidèle. Les femmes sont capables d'amour fidèle beaucoup plus tôt, 12 ou 14 ans. Mais il ne faut jamais croire un jeune homme de 16 ans. Il faut au moins qu'il ait 18 ans pour que son amour ait une certaine signification. Après que se furent écoulés assez de jours pour que s'achèvent les 9 années qui suivirent l'apparition décrite plus haut de cette très gentille, le dernier de ces jours, il advint que cette merveilleuse dame m'apparut vêtue d'un blanc éclatant entre deux gens, c'est le texte numéro 8, hein, entre deux gentilles dames qui étaient d'âge plus avancé. Et passant par une rue, elle tourna ses regards vers l'endroit où j'étais tout apeuré, et poussée par son ineffable courtoisie, qui est aujourd'hui récompensée dans le siècle qui n'aura pas de fin, Béatrice est morte, si vous voulez, au moment où Dante rédige ses souvenirs, elle me donna son salut. C'est le salut, évidemment, dans les deux sens du terme. Le salut, c'est dire bonjour, mais c'est un salut quasiment religieux. Hein. Dante est littéralement au septième ciel, si vous voulez, parce que Béatrice répond à son amour. Hein. Elle me donna son salut, riche de tant de pouvoir qu'il me sembla alors connaître les extrêmes limites de la béatitude, etc. J'en éprouvais tant de douceur que, comme enivré, je quittai les gens et recourus à la solitude d'une chambre de mon logis et me mis à penser à cette très courtoise. Et alors, voici ici une espèce de vision en songe, si vous voulez, par laquelle amour se manifeste comme le suzerain de Dante et laisse échapper d'ailleurs quelques indications sur son avenir. Tandis que je pensais à elle, il me vint un doux sommeil dans lequel m'apparut une merveilleuse vision. Il me semblait voir en ma chambre une nouée couleur de feu, à l'intérieur de laquelle je discernais une forme, celle d'un seigneur à l'aspect redoutable. Pour qui regardait cette forme? Et il me paraissait lui-même plein de... C'est amour, bien entendu, le seigneur. Il me paraissait lui-même plein d'une telle allégresse que c'en était merveilleux. Dans ses propos, il disait bien des choses dont je ne comprenais que quelques-unes, parmi lesquelles celle-ci, « Ego dominus tuus », « Je suis ton maître ». Dans ses bras, remarquez qu'amour parle latin. Hein, c'est très intéressant. Comme les esprits, d'ailleurs, les esprits vitaux parlaient latin aussi. Hein. Dans ses bras, il me semblait voir dormir une personne nue, sauf qu'elle me paraissait enveloppée d'un léger drap rouge. Et en la regardant très attentivement, Dante dit souvent ça à propos de cette vision, « Je crus reconnaître ». C'est pour souligner une espèce d'objectivité des visions. En réalité, les visions semblent s'imposer à lui, et à certains moments, il hésite comme pour une vision réelle, si vous voulez. Hein. C'est pas quelque chose sur lequel on a une prise immédiate, c'est quelque chose qui vient sans doute peut-être de l'intérieur, mais qui possède une consistance propre. Dans ses bras, et en la regardant très attentivement, je reconnus que c'était la dame du salut, c'était Béatrice, donc qui avait daigné me saluer. Et dans une de ses mains, ce Seigneur tenait quelque chose qui était tout en flamme. En réalité, c'est le cœur de Dante. Et il me semblait qu'il me disait ces mots, « Vide cortum, vois ton cœur ». Et lorsqu'il fut demeuré quelque temps, il me paraissait qu'il réveillait cette personne qui dormait. Donc Béatrice était en train de dormir, et il s'ingéniait à lui faire manger le cœur de Dante. Hein? Et elle le mangeait, non sans crainte. Et peu après cela, mais bon, c'est une image qui est un topos, si vous voulez, hein, dans l'amour courtois, le cœur mangé, mais c'est une image qui a une force extraordinaire. Hein, Peu après cela, l'allégresse d'amour se changea en pleurs très amères, et ainsi pleurant, il serrait cette dame dans ses bras, et avec elle, il me semblait s'en aller vers le ciel, ce dont j'éprouvais une telle angoisse que mon fragile sommeil ne put le supporter. Mieux, il s'interrompit, et je fus réveillé. Donc l'amour montre Béatrice avec allégresse ardente, et puis, finalement, l'amour se retire en pleurant. C'est bien entendu l'annonce que cet amour est destiné, si vous voulez, à se terminer, et même à se terminer assez rapidement. Hein, on semble, l'imagination semble pressentir, si vous voulez, déjà, quand même assez longtemps à l'avance, la mort de Béatrice. Mais vous remarquez que ce qui est aussi caractéristique, c'est que donc cet amour vient à peine de naître, déjà la mort est là. Déjà la mort. C'est vraiment Eros et Thanatos, si vous voulez, qui sont unis ici d'une façon extrêmement étroite et qui le seront dans chaque grande vision caractéristique de l'amour. Et alors, Dante est pris d'une grande angoisse. Pourquoi ? Parce qu'il a peur de perdre, bien entendu, l'objet de son amour. André, le chapelain, disait, dès que l'amour est partagé, quand l'amour n'est pas partagé, l'amour est transi d'angoisse, vais-je parvenir à mes fins? Et une fois que l'amour est assuré de la réciprocité, ce sont d'autres angoisses qui naissent. Hein, cela va-t-il durer? Est-ce que quelqu'un ne va pas séduire cette dame qui m'a accordé sa merci, qui m'a accordé son salut, qui m'a accordé sa grâce, est-ce que je ne vais pas en être dépouillé, etc. Donc on est, si vous voulez, manifestement ici dans ce qu'on pourrait appeler un amour de possession, hein, qui en réalité n'est pas un amour véritable, pas encore. L'amour véritable, Dante le découvrira, ça consistera à petit laisser être Béatrice. Et d'ailleurs, Dante sera tellement pris, si vous voulez, dans ces espèces de fantasmes que progressivement, lorsqu'il sera en face vraiment de Béatrice, il ne pourra plus supporter sa présence. Il va littéralement se décomposer, si vous voulez, devant elle, ce qui va provoquer d'ailleurs le rire de Béatrice elle-même, le rire, si vous voulez, des autres jeunes femmes qui sont les amies de Béatrice et qui l'accompagnent habituellement, parce que Dante, là, comme est le crime par excellence à l'égard de l'amour courtois, il trahit trop littéralement, si vous voulez, qui est sa bien-aimée, et il se ridiculise d'une certaine façon complètement, si vous voulez, auprès d'elle. Et alors, ce que Dante va faire, c'est il va comprendre qu'en fait, il n'est pas appelé, si vous voulez, à vivre un amour courtois habituel avec Béatrice, espérant, si vous voulez, espérant des privautés, pour ainsi dire, de sa part, et ultimement, si vous voulez, l'étreinte finale. En réalité, il est appelé à chanter les louanges de Béatrice, sans attendre rien en retour. Et ce sera le début d'un nouveau style de poésie dont Dante sera l'initiateur. C'est ce qu'on appelle le dolce stile nuovo, hein. le nouveau style doux, qui est en réalité, si vous voulez, une poésie amoureuse, mais qui n'est pas celle de l'amour courtois au sens habituel du terme. Et qui est ordonné non pas au fait d'emballer, pour employer un terme familier, si vous voulez, aujourd'hui, emballer, pour ainsi dire, une femme dont on est amoureux, mais en réalité, lui permettre de déployer, pour ainsi dire, tout ce qu'elle est, et que seule l'imagination du poète commence à apercevoir. Bon, je vais en rester là, si vous voulez, parce que sinon ça serait trop long, mais peut-être encore un dernier, si vous voulez, un dernier texte. Hein? On arrive progressivement au terme, si vous voulez, de la Vita Nova. Dante s'est convaincu que, en réalité, sa vocation n'était pas fondamentalement celle d'un amoureux professionnel, si je puis dire, mais d'être un poète qui invente un nouveau type de littérature et quelqu'un qui va se mettre au service progressivement de sa cité, y compris sur le plan politique, y compris sur le plan philosophique. Donc, par la philosophie, vous pouvez servir l'humanité tout entière. Ce n'est pas seulement la ville de Florence, mais c'est l'humanité elle-même. Et dans la monarchie, Dante proposera une espèce d'idéal politique de paix universelle, hein, un petit peu sur le mode de ce que Kant proposera, si vous voulez, avec ses projets de paix perpétuelle. Donc ça, c'est cette dimension politique, pour ainsi dire, de l'amour qui se déploie progressivement. Mais au terme de la Divine Comédie, eh bien, de la Vita Nova, si vous voulez, on voit progressivement, je prends ici le dernier texte, le texte numéro 12, après cette vaine imagination, cette vaine imagination, c'est l'imagination où il a rêvé que Béatrice mourait. Encore une fois, si vous voulez, c'est un rêve extrêmement fort, hein, où Dante va littéralement hurler, si vous voulez, au milieu de son rêve, provoquant d'ailleurs des inquiétudes autour de lui. Les gens croient qu'il est complètement malade et que c'en est fini, si vous voulez, de sa raison. Hein, et puis il se réveille, il se rend compte que ce n'est qu'un rêve, mais c'est un rêve qui annonce ce qui va bientôt venir, parce que Béatrice va bientôt tout de même quitter ce monde. Mais une des dernières occurrences où il voit véritablement Béatrice, voici ce qui se passe aussi, et ça marque, c'est vraiment une transition très forte dans la Vita Nova. Après cette vaine imagination, il arriva un jour qu'étant assis pensif en un endroit, je sentis commencer un tremblement en mon cœur. C'est en fait Béatrice qui va arriver. Dante ne la voit pas encore, mais il la sent, parce que son cœur bat la chamade. Si vous voulez, hein. Je sentis commencer un tremblement en mon cœur, comme si j'avais été en présence de cette dame. Et alors je dis qu'il me vint une vision d'amour. Il me parut le voir venir de cet endroit où il se trouvait, madame. Il y a peut-être un mot, si vous voulez, qui a sauté. Et il me semblait, c'est d'amour dont il s'agit, il me semblait qu'il me disait joyeusement en mon cœur, pense à bénir le jour où je t'ai pris, parce que tu dois le faire. Et certes, il me semblait avoir le cœur si joyeux qu'il ne me semblait pas que ce fût le mien, du fait de sa condition nouvelle. Et peu après ces mots, que mon cœur me dit par la langue d'amour, je vis venir à moi une gentille dame qui était d'une beauté fameuse et qui fut jadis le grand amour du premier de mes amis. C'est le poète, ça a été la muse, pour ainsi dire, l'ami de Guido Cavalcanti. Ce poète, si vous voulez, ce poète florentin qui était à la tête des fidèles d'amour. Et les fidèles d'amour, c'était un groupement où l'on considérait vraiment l'amour comme étant la véritable religion. Donc, c'était établir l'amour et l'amour pour la dame comme étant la religion par excellence. Donc, quelque part, c'est assez proche du christianisme, si vous voulez, hein, puisque dans le christianisme, Dieu est amour. Mais ici, ce n'est pas tellement Dieu est amour, c'est l'amour qui est Dieu. Et cet amour doit être, on doit s'y abandonner, pour Guido Cavalcanti, si vous voulez. Donc finalement, la passion doit venir submerger, si vous voulez, l'amant, hein, doit venir submerger sa raison, et ce sera forcément un amour malheureux, parce que c'est un amour passion, au sens explicite du terme. Donc, d'une certaine façon, ça va provoquer, si vous voulez, chez celui qui est sujet de cet amour, des dérèglements en tout ordre. L'individu va dépérir, l'individu va souffrir, parce que le véritable amour apporte la souffrance. Mais c'est ça, rendre un culte véritablement, si vous voulez, au Dieu amour. Et donc, Dante a commencé à être, si vous voulez, dans cette optique-là, et d'ailleurs il a commencé par dépérir un petit peu, à tel point que ses amis se demandaient, mais qu'est-ce qui arrive? Hein, quel est cet amour comme ça qui t'accable d'une telle façon? Et bien entendu, qui est-ce, hein? Et Dante commençait, si vous voulez, aussi à s'étioler, etc. Mais petit à petit, comme je vous l'ai dit, il va ajuster sa vision de l'amour et finir par rejeter cette vision un peu névrotique et narcissique, finalement, des fidèles d'amour. Prôné par Guido Cavalcanti. Et ici, c'est symbolisé d'une façon assez étonnante. Donc, on a deux femmes, si vous voulez, qui se suivent l'une après l'autre. Il y a tout d'abord une certaine Jeanne, surnommée Primavera, qui était l'ancienne amie de Guido Cavalcanti. Et qu'est-ce qu'il y a derrière qui la suit? Béatrice. Donc, Je vis venir vers moi une gentille dame qui était d'une beauté fameuse et qui fut jadis le grand amour du premier de mes amis. Et le nom de cette dame était Jeanne. N'était qu'à cause de sa beauté, comme d'aucuns le croient, il lui avait été imposé le surnom de Printemps, Primavera, et ainsi l'appelait-on. Et regardant derrière, je vis venir l'admirable Béatrice. Ces dames passèrent près de moi, ainsi l'une après l'autre, et il sembla qu'amour me parlait en mon cœur et disait « La première n'est nommée Primavera qu'à cause de sa venue aujourd'hui, car c'est moi qui ai incité celui qui lui a donné ce nom à l'appeler Primavera. » Ce qui veut dire en italien, un jeu de mots si vous voulez avec l'italien, « Primavera », c'est « Première, elle viendra ». Donc, cette femme est pour ainsi dire annonciatrice de Béatrice qui la suit, un petit peu comme Jean-Baptiste a été l'annonciateur du Christ. Et alors symboliquement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'amour courtois, symbolisé ici par la dame, si vous voulez, de Guido Cavalcanti, l'amour courtois a été pour ainsi dire une espèce de précurseur du véritable amour tel que Dante en prend petit à petit conscience. Un amour actif, cet amour fécond, si vous voulez, tourné vers l'extérieur. Hein, et qui cherche effectivement, si vous voulez, non pas son propre bonheur ou son propre malheur, les deux équivalents, c'est équivalent finalement dans la logique des fidèles d'amour, mais le bonheur de l'humanité si possible en général. C'est moi qui ai incité celui qui lui a donné ce nom à l'appeler Primavera, car première elle viendra, Primavera, le jour où Béatrice se montrera après la vision de son fidèle. Et si tu veux d'autre part considérer son premier nom, il veut dire aussi Primavera, parce que son prénom de Jeanne vient de celui de Jean, hein, qui précéda la vraie lumière en disant « Ego vox clamantis in deserto ». C'est le message de Jean-Baptiste, hein, avant la venue de Christ. Hein. « Je suis la voix criant dans le désert, préparez le chemin du Seigneur ». Qui est le Seigneur ici? C'est Béatrice. Hein. Béatrice est identifiée purement et simplement au Christ. En réalité, après, si vous voulez, elle ne sera plus identifiée tout à fait au Christ, mais elle sera quand même extrêmement proche de lui. Elle sera comme sa manifestation la plus éminente pour Dante, bien entendu. Et il me sembla aussi qu'il me disait, après ces paroles, quelqu'un qui voudrait faire des considérations subtiles, cette Béatrice, il l'appellerait Amour, à cause de la grande similitude qu'elle a avec moi. Eh bien, ceci marque la dernière vision d'amour, comme ce tiers, si vous voulez, qui relie Béatrice à Dante, après ça, amour ne viendra plus. La dernière grande vision que Dante verra, ce sera après la mort de Béatrice, ce sera une vision de Béatrice elle-même. Et dans la Divine Comédie, ce sera Béatrice elle-même. Donc, amour en tant que tel a disparu, ou plutôt, Dante l'explique en disant, amour est en réalité, je l'ai intégré en moi. Sous-entendu, on pourrait traduire ça comme ça, j'ai petit à petit compris, à cette école initiatique de Béatrice, ce qu'était le véritable amour. Il ne m'est plus extérieur, je le porte en moi. Et d'une certaine façon, il s'identifie pour moi avec elle, puisque c'est elle que j'aime et plus une fantasmagorie qui s'appelle amour avec un grand A et dont elle n'était au départ, il faut bien dire, que le prétexte. Voilà, je vais en rester là. Excusez pour ma bafouille. Désolé d'avoir oublié mes feuilles, mais bon.
Est-ce qu'il y a quelques questions concernant
Oui.
Bien sûr.
Et d'ailleurs, cette vision finale est un éblouissement. Dans la vision finale, dans la dernière chambre du paradis, Dante ne voit plus finalement de forme précise, c'est une espèce de lumière pure. Hein, c'est comme si, bien entendu, il y a eu tout l'itinéraire décrit dans la Divine Comédie, où Dante voit toute une série de formes, toute une série de visages, toute une série de vertus, toute une série de figures de l'amour, finalement. Hein. Et finalement, ça se termine par un amour infini qui n'a plus de forme. Et évidemment, c'est Béatrice, d'ailleurs, qui constitue son guide hein, dans la première partie, dans la dernière partie, pardon, de la Divine Comédie. Hein, c'est Béatrice qui, petit à petit, si vous voulez, le guide. Et ce qui est très important pour Dante, c'est d'ailleurs qu'il voit non seulement la lumière divine, mais il la voit très fréquemment reflétée sur le visage de Béatrice. Hein.
Là aussi, je vous le dis, là aussi, il n'arrive plus à parler.
Oui, exactement. Tout à fait, tu as tout à fait raison. Il y a quelque chose où, à ce moment-là, le langage défaille, le langage est inutile aussi. Oui, on dit, lui.
Merci beaucoup pour cette conférence, parce que je suis complètement ici, j'imagine, j'ai un petit peu honte de poser des questions qui sont pour les éclaircissements techniques. Voilà. La première, c'est est-ce qu'on pourrait considérer que cette amour chez Dante est un peu dans la lignée de la conception de l'amour comme voie de connaissance, en fait.
Tout à fait. D'ailleurs, il y a quand même pas mal de travaux. Allez, insister par exemple sur l'espèce de convergence qu'il y a entre l'érotique des troubadours et la conception de l'amour de Saint Bernard. Et le personnage de Saint Bernard est un personnage qui est extrêmement important dans la Divine Comédie. Donc, Dante rencontre Bernard. Et il y a, c'est un passage qui n'est pas du tout anodin hein, au paradis. Donc, à travers la figure de Bernard, Dante découvre effectivement certaines choses et progresse. Il y a manifestement des recoupements possibles.
Hein. J'ai trois questions que sur la délectation de Rosa que je ne sais pas du tout.
Il y a un livre ici qui est à mon avis le meilleur sur le sujet, c'est de Charles Baladier, Héros au Moyen Âge. Charles Baladier, Amour, désir et délectatio morosa. Tu veux, je te passerai les références après.
Le texte de Thomas, en fait, c'est dans la seconde secondaire.
C'est dans la. Je crois que c'est dans la prima secondae. Oui, je ne pourrais pas te répondre parce que la cédille, quelque chose de beaucoup plus ancien. Hein, c'est, notamment, on trouve ça chez les moines du désert d'Égypte, etc. Il y a des pages fameuses de Jean Cassien, par exemple, sur la cédille, etc. Donc, c'est une espèce de dépression liée à la vie monastique, en fait. Hein. Au bout d'un certain temps, même les moines et les moniales, si vous voulez, les plus fervents, peuvent être gagnés assez facilement par une espèce de lassitude, à quoi bon, et même un dégoût, si vous voulez, de ce qu'ils avaient fait jusque-là. On pourrait qualifier ça, si vous voulez. Il y a certains d'ailleurs qui ont fait. Vous savez qu'à chaque époque, vous avez comme ça une espèce de pathologie mentale caractéristique. Hein. Notre époque, ce serait le burn-out. Au 19e siècle, c'était l'hystérie, si vous voulez. Et il y a des gens qui ont dit, mais dans l'Antiquité. Dans l'Antiquité tardive, notamment chez les moines, la maladie psychologique par excellence, c'était la cédille. Bon, on pourrait parler du spleen de Baudelaire aussi, mais peu importe. Mais honnêtement, franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je préfère dire que je ne sais pas, si tu veux, mais j'ai quand même l'impression que la CEDI a été, ayant été codifiée quand même beaucoup plus tôt, si tu veux, que la Delectatio Morosa, je ne suis pas sûr qu'il y ait des liens énormes à faire entre les deux. Mais il faudrait voir.
Et puis alors, une dernière question. Vous utilisez la parole. Dans le texte de Thomas, en fait, on a des imaginations qui viennent de manière naturelle et qui doivent être arrêtées.
Oui.
Donc il y a un mouvement de la volonté qui vient arrêter,
oui,
plutôt qu'un mouvement qui suscite des images. Mais ce mouvement qui vient arrêter, quand il s'arrête sur des imaginations qui prolongent, qui fait plus que prolonger, c'est-à-dire qui s'y attardent, est-ce que c'est pas quand même une espèce d'acte d'attention, d'acte de volonté? C'est-à-dire, est-ce que ces imaginations qui sont de venir naturellement, là, ne sont pas quand même une espèce d'acte d'attention, de départ? Est-ce qu'on ne peut pas susciter une délégation de Rosa? Je pose quand même la question.
Non, bien sûr.
Est-ce qu'on peut susciter une délégation de Rosa depuis le départ, qui est carrément fabriquée, par exemple, dans la poésie courtoise?
Tout à fait. Non, oui, je pense que ça n'est pas du tout exclu, hein, et que là, c'est une espèce de délectatio morosa, pour ainsi dire, au carré, si tu veux.
Mais à la lettre, il y a un code aussi.
Ah, bien
entendu. Il y a un contrôle de l'imagination dans l'autre sens aussi. Pardon, je ne sais pas si c'est le contrôle, mais comme il y a un code, c'est...
Oui, tout à fait, tout à fait. Et vous avez des restes de cette délectatio morosa, mais qui est dans un sens tout à fait positif ici. Pensez aux exercices spirituels d'Ignace de Loyola, par exemple. C'est une espèce de... comment dire... remarquez que vous avez d'ailleurs encore chez Ignace de Loyola ce contexte de chevalerie, hein, ce contexte de courtoisie. Hein, Ignace de Loyola, c'était nourri, si vous voulez, pendant toute une période de sa vie, de romans de chevalerie, etc. C'était vraiment, ça saturait son imaginaire, hein, et il en reste quelque chose dans les exercices spirituels. Mais là, c'est retourné vers le Christ, mais le Christ est vu comme embauchant des chevaliers, hein, embauchant des chevaliers. Et c'est un roi noble, c'est un roi qui est en réalité plein d'amour, hein, et qui propose précisément, si vous voulez, à des chevaliers qui sont de grande vertu, cette grande entreprise, dans le fond, qu'il faut se mettre à son service et partir reconquérir symboliquement, bien entendu, mais la terre des infidèles, etc. Enfin, il y a là un retournement, hein, qui me semble-t-il est assez intéressant. Et là, ce qui est intéressant dans les exercices, c'est que ce sont évidemment des exercices de méditation imaginative, mais qui sont bien entendu constamment contrôlés par la volonté, ou en tout cas qui sont appelés à l'être.
Voilà. Donc, on va continuer cette discussion après. Mais en tout cas, merci beaucoup à tous d'être venus au colloque. Je remercie vivement les intervenants parce que, en tout cas, moi j'ai trouvé toutes les conférences vraiment passionnantes et c'était intéressant de voir comme des liens pouvaient se créer entre elles. Donc, on est parti dans plusieurs directions, mais j'ai l'impression que pour ceux qui ont vu beaucoup de conférences qu'on a eues ces deux jours, on peut a posteriori un peu les regrouper et voir des choses qui se créent. Et donc voilà, je pense que ça donnera matière à penser pour la suite, en tout cas.
Et vive la philosophie.
Merci à vous. Merci à vous.
Oui, voilà, tout à fait, parce que c'est...
Merci, vraiment, c'était formidable. Merci.
Donc, allez, on peut les applaudir.
Dans votre soirée, malgré la demi-heure de retard, vous êtes invité à suivre Alexis vers le poste où il y aura un apéro. Et moi, je veux bien deux fois surfer, puis reste m'aider à ranger la salle, sinon je vais m'en sortir. Voilà.